Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Ktuvot, page 101, Daf Kuf Alef. Bonne écoute et bon limoud.
Par contre, celle qui quitte son mari après la remise d'un acte de divorce devra attendre 3 mois pour épouser un autre. Bien qu'étant mineure, il n'y a pas de risque qu'elle soit enceinte, car c'est à cause de cette possibilité que l'attente est prescrite. Malgré cela, Rahamim n'ont pas voulu faire de différence entre une divorcée et une autre. Demande à Gmara, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que Shmuel a trouvé d'intéressant à nous enseigner là? Tanina Kulu, tout ceci a déjà été enseigné dans une Mishnah qui se trouve dans le traité des Bamot. Avemaenet Beish, ou Mutar Bikorotea, Vehi Muteret Bikrovab. L'orphelin mineur qui refuse de continuer le mariage déjà amorcé, son ex-mari aura le droit d'épouser une de ses proches parentes, sa mère, sa sœur, etc. Et elle-même pourra contracter un mariage avec ses proches parents à lui, son frère, son père, son fils, etc. Velo passe la minakouna, et leur séparation ne lui implique pas l'interdiction d'épouser un Kohen. Nathan Laguette, si par contre il lui a remis un acte de divorce et que c'est de cette façon qu'il se sépare, ou Assur Bikurotea, vi Assura Bikrovav, ou passe la minakouna. Lui ne pourra pas épouser une de ses proches parentes à elle, elle ne pourra pas se marier avec ses parents à lui, et ne pourra pas non plus épouser un Kohen. Répond la Gemara, Shmuel pensait qu'il était nécessaire de préciser qu'elle devait attendre 3 mois après l'acte de divorce pour épouser un autre, une obligation qui ne concerne pas celle qui quitte son mari au moyen du Mioun, c'est-à-dire lorsque c'est elle qui refuse la suite du mariage, car cette nuance n'a pas été soulignée dans la Mishnah. Lema Ketanaï, demande la Gemara, peut-être pourrait-on avancer que la divergence d'opinion que nous avons retrouvée entre Rav et Shmuel à propos de l'orpheline en bas âge qui reçoit l'acte de divorce de son mari, pour qui d'après Shmuel aurait droit à la ktouba et à ce qu'elle implique, alors que pour Rav elle avait le statut de la même aînette, celle qui refuse le mariage et n'avait droit à rien du tout, peut-être que ces deux avis avaient déjà été partagés par des Tanaïm. Rabbi Elazar Omer, une Mishnah du traité de Yebamot dit que Rabbi Elazar pensait En maasek tana klum, ven baala zakabim tiata, velo maase yadea, velo bafar edarea, vena yorsha, veno mitamela, klalo shel davar, ena ki ishto lechol davar. Et là, c'est Tzichamiyoun. D'après Rabbi Eliezer, les noces d'une jeune orpheline de moins de 12 ans n'a aucun effet. Son mari ne pourra pas, en tant que tel, s'approprier de ce qu'elle a trouvé ou du salaire qu'elle toucherait pour un travail qu'elle aurait fait. Il ne pourra pas non plus annuler ses serments. Il ne l'héritera pas si elle meurt. En cas où il serait Cohen, il ne pourra pas se rendre impur pour l'enterrer. En fait, le principe de base est le suivant. Elle n'est pas sa femme, mis à part le fait que pour le quitter, elle doit exprimer son refus. Rabbi Yehoshua Omer, par contre Rabbi Yehoshua a pensé Maasek Tana Klum, ou Bala Zakabim Tiata, ou Maase Yadea, ou Befarle Darea, ou Yorcha, ou Mitamela, Klalo Shel Davar, Ariki, Ishto Lechol Davar, et là, Shuyatsa Bemihun. Pour Rabbi Yehoshua, les noces de cette orpheline sont valides, et par conséquent, c'est à son mari que reviennent les droits sur ses trouvailles, sur son salaire, il a la possibilité d'annuler ses promesses, il l'hérite si elle meurt, il l'enterre et sera impur pour cela, même s'il est Cohen. En fait, la règle est d'après lui la suivante. Elle sera considérée son épouse avec tout ce que cela implique, excepté le fait qu'elle peut le quitter en exprimant son refus et n'a pas besoin de recevoir l'acte de divorce qui est impératif pour une adulte ou celle qui a été mariée par son père. Lema Rav Damar Rabbi Eliezer ou Shmuel Damar Rabbi Yehoshua. Peut-être serait-il juste de dire que Rav suit l'optique de Rabbi Eliezer et Shmuel l'avis de Rabbi Yehoshua. Possibilité que la Gemara refute. En ce qui concerne le point de vue de Rabbi Eliezer, Shmuel aussi est d'accord qu'il n'y a pas de différence entre la même aînette, celle qui refuse la suite du mariage, et celle qui quitte son mari par le biais d'un acte de divorce. Toutes les deux, étant orphelines en bas âge, n'ont pas de droit d'épouse et ne peuvent prétendre à la ktouva et à ce qu'elle implique, comme il avait été dit dans la Mishnah. Leur discussion est à propos de Rabbi Yehoshua. Shmuel que Rabbi Yehoshua. Shmuel pense sans détour comme Rabbi Yehoshua. Verav. Rav fait cette nuance. At kan lo kama Rabbi Yehoshua atam et la midida le didé. Aval midida le didé lo. Bien que Rabbi Yehoshua ait donné le statut d'une épouse de plein droit, ceci en fait ne visait que le devoir qu'a une femme envers son époux. C'est pourquoi, disait-il, ce qu'elle gagnerait appartiendrait en fait à son mari. Son mari aussi annulera ses promesses, l'enterrera, etc. Mais en ce qui concerne les devoirs qu'a un homme vis-à-vis de sa femme, étant donné qu'elle a la possibilité de le quitter par un simple coup de tête, les sages n'ont pas voulu le contraindre à s'y engager. C'est pourquoi, d'après lui, notre Mishnah pouvait dire que même si le mari lui a donné l'acte de divorce, elle n'aura pas droit au privilège indiqué par le contrat de mariage. Rashi explique pourquoi les Chazal ont tenu à ce point à encourager les gens à épouser ces orphelines. Cela parce que une fillette sans père ni mari serait facilement séduite par le premier venu. Velo Belaot. La Mishnah disait ensuite que cette orpheline n'avait pas droit au haillon qui restait des vêtements qu'elle avait amenés avec elle en dot de mariage. Amal et Ravuna Barri al Rav Kana, Amartlan Mishmed de Shmuel. Ravuna, le fils de Rav Priya, a dit à Rav Kahana, tu nous as dit au nom de Shmuel que la Mishnah ne parlait ici que des habits qu'elle aurait amenés avec elle et qui n'avaient pas été soulignés dans le contrat de mariage. Mais ceux qui avaient été soulignés dans celui-ci, elle sera en droit de le réclamer. Je voudrais, avant de continuer, préciser la distinction qu'il faut faire entre Nirsemilug, la dot de la fiancée qui n'a pas été rédigée sur le contrat de mariage, et Nirsetson Barzel, celle qui a été inscrite. Pour la première, la vraie propriétaire sera l'épouse, mais durant leur mariage, le mari est en droit d'utiliser l'objet, ou s'il s'agit d'un champ, il peut en manger les fruits, alors que pour la deuxième, le propriétaire sera le mari, et en cas de divorce ou de sa mort prématurée, elle recevra le tout intégralement, tel qu'il est indiqué sur la Ktouva. Have bar Rafapa. Par conséquent, Rafapa se demandait comment expliquer ce qui avait été dit dans notre Mishnah. Aheye, sur laquelle des trois femmes mentionnées par la Mishnah avaient dit Shmuel qu'il y avait une nuance à faire entre Nirsemilug et Nirseton Barzel. Hamemahenet, sur l'orpheline en bas âge qui refuse de continuer le mariage amorcé, idit nou, idiveidi shakla. Si sa dot est encore existante, elle pourra reprendre Nirsemilug et Nirseton Barzel. Veidit nou, idiveidi lo shakla. Et lorsque toutes les deux auraient été consumées par le mari, pourquoi devrait-il rendre quoi que ce soit? Ce n'est pas lui qui répudie sa femme, c'est elle qui refuse de continuer le mariage. Par conséquent, il serait juste qu'il puisse prétendre, si cela dépendait de moi, je resterais marié avec elle, et le jour de sa mort, je l'hériterai. Et là, à Elonit. Alors peut-être Shmuel ne parlait que de la femme stérile. Idit-nous, idivédi chakla. De nouveau, devant la Gemara, si la dot est encore intacte, pourquoi ne pourrait-elle pas reprendre l'une comme l'autre, Nirsemilug, comme Nirsetan Barzel? Idelit-nous, et si elles se sont désintégrées, Ifrabebaele, il aurait été plus logique de dire le contraire, Nirsemilug de Beshuta Kaime, itla, Nirsetan Barzel de la Beshuta Kaime, litla. Les Nirsemilug qui lui appartenaient à elle, elle pourrait demander à son mari qu'elle a profité et qu'il la chasse maintenant parce qu'il s'avère qu'elle n'a pas les facultés d'enfanter et donc les Kiddushin sont annulés rétroactivement, rembourse-les-moi. Alors que justement les Nirsetan Barzel qui appartiennent au mari et qui étaient dans son droit lorsqu'il les a mangés, pourquoi c'est justement eux qu'il devrait rembourser? Et là, Ashnia, la Gemara explique que Shmuel n'a parlé qu'uniquement de la femme qu'il était interdit d'épouser par décret rabbinique. Et justement, la raison pour laquelle Rahamim ont annulé leur contrat de mariage, c'était pour les amender, une façon de les décourager de ce genre de mariage. Et c'est pourquoi, justement, ce qui lui reviendrait à elle, Nirsemilug, ils lui ont dit « tu n'as pas besoin de rendre ». Et les Nirsetan Barzel, qui sont sa propriété à lui, ils lui ont dit « tu le lui donneras ». Amar Shimi Barashi, Shmamina Bidrav Kahana, Aila Leglima, Karna Ave. Rav Shimi Barashi fait remarquer qu'à partir de l'enseignement de Rav Kahana, il nous est permis de déduire que lorsqu'une fiancée amène avec elle un habit, on le considérera comme étant un capital, velo Mirsela Vazila de Bali, et l'époux ne pourra pas s'en vêtir et l'user. Il devra le vendre, acheter une terre avec l'argent qu'il a obtenu, celle-ci sera la propriété de sa femme, comme nous l'a enseigné Rav Kahana, et lui le mari ne pourra tirer profit que des fruits qui y pousseraient. Demande à Gemara, ve'amar Rav Nachman, perave. Pourtant Rav Nachman disait qu'une fiancée qui amènerait avec elle un vêtement pourrait être considérée par le mari comme étant un fruit dont il a le droit de profiter, quitte à l'escanter par l'usage. Répond la Gemara, oui effectivement, de Rav Nachman pliga. Rav Nachman n'est pas du même avis que Rav Kahana, cela il faut s'en rendre à l'évidence. En laem ketuva. La Mishnah rapportait que ces trois femmes ne reçoivent pas la ketuva. Amar Shmuel. Toutefois, Shmuel faisait remarquer Lo shanu la mané mataim. Avalto sefet yesh laen. Cela est valable pour le mané que reçoit la fille qui n'est pas vierge ou les 200 que reçoit celle qui est vierge. Mais l'argent que le fiancé s'est engagé à payer de son propre chef, il sera obligé de la leur remettre. La Gemara rapporte Tanane meachi. Cela d'ailleurs est écrit dans une braïta. Nashim shamu chachamim en laem ketuva que god mamem haenet vechavrotea. Les femmes à propos desquelles Rachamim ont dit elles ne reçoivent pas de Ktouva, par exemple celles qui refusent de continuer le mariage, l'orpheline en bas âge que l'on nomme Memahenet et ses amis, rapporté dans Davkouf, n'ont pas droit aux 100 ou 200 zouz de la Ktouva, mais l'engagement du fiancé qui excéderait ces sommes leur reviendra malgré tout. Nashim shamu chachamim yotzot shel biktuva kegon overet al dat vechavrotea en laem tosefet vekol shken mane mataim. Par contre, celles qui ont été pénalisées par les sages à quitter leur mari sans ktuva, par exemple celles qui ne gardent pas les lois de pureté familiale ou celles qui négligent la kashrout, ne peuvent même pas prétendre à ceux dont leur mari s'était engagé. Et à plus forte raison qu'elles ne recevront pas les 100 ou 200 zouz qui revient à toute femme lors d'une séparation des corps. Vayotzet mishum shemra, et celle qui est chassée pour cause d'adultère, notelet machelefania vuotza, ne prendra avec elle que les Nirsemilug qui sont encore existants. Mais c'est elle et le Ravuna, Dama Ravuna Zinta Loefsida Blaotea Kayamin. Cette braïta appuie un enseignement de Ravuna qui disait « Une femme qui a commis une relation sexuelle interdite n'a pas pour autant perdu les haillons de ses Nirsemilug. » Tani Tana, nous avons tourné la page Kufa Lefamud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
un enseignement de Ravuna qui disait « Une femme qui a commis une relation sexuelle interdite n'a pas pour autant perdu les haillons de Sinirse Milug. » Tani Tana, nous avons tourné la page « Kouf Alef Amoud Bet » Kamed Rav Nachman. L'on a lu un passage d'une braïta en présence de Rav Nachman qui disait « Zinta Ipsida Blotea Kayamin » L'épouse qui a commis un adultère a tout perdu et ne prendra même pas avec elle ce qui reste de la dot. À Marley, Rav Nachman lui fut remarqué « Imizinta Kelea Mizanaï » Comment conçois-tu ceci? Si elle a commis un adultère, ses habits sont-ils fautifs? Tani dit plutôt « Lo Ipsida Blotea Kayamin » Elle n'a pas perdu ce qui resterait de sa dot. « Amar Rabba Barbarana Amar Biachonan » Zoud Vé Rabbi Menachem Stimata. Pour Rabba, le petit-fils de Chana, au nom de Rabbi Yochanan, l'explication de cette braïta serait que celle-ci rapportait l'opinion d'Rabbi Menachem sans préciser son nom, mais en fait Chachamim sont d'avis qu'elle n'a pas perdu ce qui resterait de sa dot, Nirse Milug. La Mishnah toutefois précisait que lorsque l'époux de la Haïlonite, la femme stérile, était conscient du défaut de sa conjointe, il lui devra le contrat de mariage avec tout ce qu'il implique. Amar Rabuna, Haïlonite, Isha Veina Isha. Almana Isha Gmura. La Haïlonite est considérée épouse à 50% d'après Ravuna, alors que la veuve à 100%. Que veut-il dire? Haïlonite Isha Ben Aisha, Ikirba Isha Ktuva, Lo Ikirba Enaktuva. Almana Isha Gmura, Ben Ikirba, Ben Lo Ikirba Isha Ktuva. La Haïlonite a les droits d'une épouse lorsqu'elle lui a fait part de son état physique. Sinon, le fait de lui avoir caché sa stérilité lui fait perdre tous ses droits d'épouse et il la répudie sans lui devoir quoi que ce soit. Alors que la veuve qui aurait contracté un mariage avec un homme, qu'il soit au courant de son premier mariage ou pas, s'il veut divorcer, il devra lui payer sa ktouva. Rav Yehuda Omer, par contre Rav Yehuda n'est pas d'accord avec Ravuna, et il disait « Achadzu va achadzu, isha vena isha, ikirba ishla ktouva, lo ikirba ishla ktouva » L'une comme l'autre, qui n'aurait pas spécifié à son mari son état, perd ses droits indiqués dans le contrat de mariage. Mitivé, la Gemara oppose à Ravuna une braïta. Lorsqu'un homme épouse une femme qui lui précise qu'elle avait déjà été mariée auparavant, il devra, s'il veut divorcer, lui remettre la ktouva. Astama en la ktouva. C'est donc qu'elle ne la recevrait pas si elle ne lui en avait pas fait part. Et la Gemara essaie de répondre, l'otema astama en la ktouva, et la ema kansa bereskatch en la ken vinitachiken en la ktouva. Non, la déduction qu'il faut faire, c'est que si elle lui avait spécifié qu'elle n'était pas veuve, et qu'il s'avère ensuite qu'elle a menti, elle ne recevra pas la ktouva. Mais le fait d'avoir tué la vérité n'est pas suffisant. C'est donc ce que la Gemara remarque. Aval stamamai itla. Abetani bechaska sheiken minitzat sheiken. Niesh la ktouva lesh minan stama vekol shkenha. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi la Gemara parle du cas où elle lui a dévoilé qu'elle était veuve? Il aurait été plus intéressant de dire qu'elle ne lui a rien dit, et malgré tout, elle a droit à la ktouva. Et par simple logique, j'aurais compris qu'il en serait de même si elle lui avait dit. Veod tani. Et de plus, il y a une breta qui explicite clairement. Kansa biadua venisa biadua et la ktouva. Kansa stam en la ktouva. Lorsqu'elle lui a fait part de son état, elle reçoit la ktouva. Sinon, non. Ti uta de Ravuna. Effectivement, cette breta contredit ce que disait Ravuna. Refuter la thèse de Ravuna complètement. Ravuna était d'avis qu'une veuve qui aurait caché son statut à son mari toucherait quand même le mané du contrat de mariage d'une fille non vierge. Ravuna demande à Gmara, comment se fait-il que Ravuna s'est trompé à ce point? Matniki matete. C'est notre Mishnah qui l'a induit en erreur. Ou ça va armer des kamaflik ba'ilonit. Velo kamaflik ba'almana, michlal d'almana, filobistamana mitla. Lui pensait, puisque la Mishnah n'a fait la nuance de celle qui a mis son mari au courant de sa stérilité à celle qui lui a caché, que à propos de la ailonite, la femme stérile, et non pas de celle qui aurait perdu son premier mari, c'est que celle-ci, il n'y a pas de différence s'il en était conscient ou pas. Velo oui, mais en fait cela est erroné. Qui katanila l'almana a plukta d'alunkai. Quand la Mishnah a étudié le cas de la veuve, sans préciser qu'elle ne recevrait son mané que si elle avait mis son mari au courant de cela, c'est justement parce que elle avait déjà expliqué qu'il en était ainsi à propos de la femme stérile. Adran alar amananizonet. Nous allons Bezrat Hashem réviser le chapitre intitulé Amananizonet. L'homme qui épouse une femme en lui promettant de nourrir sa fille durant 5 ans, Chayav Lazuna Chameshanim, devra la nourrir pendant 5 ans. Niset l'acher ou paskaimo kede shiazul ibita Chameshanim, Chayav Lazuna Chameshanim. S'ils viennent à se séparer avant le laps de 5 ans écoulé, et qu'en épouse un autre et lui aussi lui promette de nourrir sa fille pendant 5 ans, il devra la nourrir 5 ans. Le Omar Rishon l'ikshitavo etzli azuna. Et la molir la mezonotea le makom sheima. Son ex-mari ne pourra pas dire qu'elle vient habiter chez moi et je la nourrirai comme promis. Il doit lui apporter sa nourriture à domicile chez sa mère. Vechen le yom rushneem areanus animota keachad. Et la echad zana vechad notenad me mezonot. De même, ces deux hommes ne pourront pas s'unir pour la nourrir ensemble. L'un lui donnera sa nourriture et l'autre payera en espèces ce qu'elle lui aurait coûté. Niset abba notenad mezonot. Si cette jeune fille a épousé entre-temps un homme, son mari la nourrira et les deux hommes qui ont été mariés avec sa mère lui paieront une pension alimentaire puisqu'il s'y était engagé. Mais tout, si ces hommes venaient à décéder, benotem nizonot minechassim minechaurim, vei nizonet minechassim shuvadim. Leur fille à eux ne touchera de pension alimentaire qu'en vendant des biens disponibles, alors qu'elle a droit de vendre dans ce but même de l'immobilier que ces hommes auraient déjà vendu à d'autres, du moment que cette transaction avait été effectuée après l'engagement envers sa mère. Mipne shei ke balatrov, parce qu'elle a le statut d'une créancière. Les hommes prévoyant ajouter une clause dans leur contrat de mariage où il était dit « Je nourrirai ta fille durant 5 ans tant que tu es lié à moi par le mariage. » Sous-entendu que la séparation des corps par le divorce ou par la mort d'un des conjoints annulerait l'engagement. Avant de continuer la Gemara, je voudrais mettre quelques points au clair. Premièrement, un homme qui atteste en présence de témoins devoir à son ami de l'argent, s'il dit au témoin « Vous pourrez déposer contre moi en cas où je récapitulerai », son aveu est sincère, il devra payer la dite somme. Mais en cas où il n'aurait rien dit au témoin, il lui sera possible, en cas où on lui fasse un procès, de dire « En fait, je me moquais de toi » ou encore « C'était une façon de faire croire aux gens que j'étais endetté ». En cas où le prêteur aurait un papier signé de sa main, de toute façon, il devra payer ce dont il s'est engagé. Simplement, on ne pourra pas reprendre, dans ce cas, de l'immobilier qu'il aurait vendu entre-temps. Mais si des témoins avaient apposé leur signature sur le contrat pour certifier que pour une raison ou pour une autre, cet homme devait de l'argent, l'on pourra même, en cas de besoin, reprendre des biens qu'il avait vendus. Itmar, la Gemara rapporte qu'il a été dit « A omer le chavero chayaveni le chamane, rabbi yochanan amar chayav, verish lakish amar patour. » Celui qui reconnaîtrait devoir de l'argent à son ami, d'après Rabbi Yochanan, il devra la lui remettre, et d'après Rish Lakish, il en sera dispensé. Echidami, demande à Gemara de quel contexte il s'agit. Ida amar le watemedai, maitamad Rish Lakish, de Kapatar. Si au témoin qui était présent lorsqu'il reconnaissait devoir cette somme, il avait dit, vous pourrez déposer contre moi, pourquoi Rish Lakish le dispenserait de paiement? Ida lo amar le watemedai, maitamad Rabbi Yochanan de Kamechayev. Et s'il ne leur a rien dit, pourquoi Rabbi Yochanan l'obligerait à payer? Répond la Gemara à l'Olam de l'Okamar le Ouatemedaï. Il faut croire qu'il n'a pas dit au témoin, vous pourrez déposer contre moi. Mais ici, il faut convenir que le problème est le suivant. Il lui aurait écrit sur un papier, je te dois la somme d'un mané. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Alimamita Dishtara, Keman Damar le Ouatemedaï Dami. D'après Rabbi Yochanan, le fait qu'il lui ait rédigé un papier et le lui a remis en présence de témoins, cela donne le même poids que s'il avait dit au témoin, vous pourrez déposer contre moi. Rish Lakish Amar Patour, l'Olimamita Dishtara. Par contre, pour Rish Lakish, puisqu'il n'a pas dit au témoin, vous pourrez déposer contre moi, il pourra toujours dire, je me suis moqué de toi en te donnant ce papier. Nous allons cesser ici notre cours sur la page Kouf Aleph. Nous allons commencer notre cours sur la page Kouf Bet par les deux dernières lignes qui se trouvent en bas de la page Kouf Aleph Amoud Bet. Tnan, Anoset Aisha ou Paska Imo Lazuet Bita Hameshanim, Chayav Lazuna Hameshanim. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un homme doit respecter ses engagements. S'il s'est engagé à nourrir la fille de son épouse durant 5 ans, il devra le faire pendant 5 ans. Maïlav Kaigavna. Puisque la Mishnah pense bon de nous l'apprendre, c'est qu'il ne s'agit pas là d'un engagement rédigé par les conjoints et signé par les témoins. Sinon, à quoi bon nous l'enseigner? Il faut croire qu'il s'agisse du cas où le mari s'est engagé vis-à-vis de sa femme sur un papier qui lui aurait écrit de sa main et lui aurait remis en présence de témoins, mais ceux-ci n'auraient pas signé dessus. Et malgré tout, la Mishnah pense que l'engagement doit être respecté. Donc, c'est Rabbi Yochanan qui avait raison. Comment s'arrange Rish Lakish? Refute la Gemara en haut de la page Kouf Bet Amoud Aleph, lo bishtaref.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.